avril 1983, père Philippe Rimon.
Nous avons vu la dernière fois comment il fallait endiguer les poussées imaginaires qui risquaient tout le temps de faire que le sensible arrête la croissance de la raison, de l'intelligence, pour diriger notre action humaine. Il faut maintenant comprendre comment la raison, Saint-Thomas dit toujours raison, hein, comprenons intelligence, ce n'est pas la raison raisonnante. C'est la raison intelligente. Comprenons comment l'intelligence qui lutte contre ces invasions imaginaires, ces poussées imaginatives, la raison peut avoir suffisamment de force en réalisant des actes humains, des actes moralement bons, elle peut être source de certains plis, de certaines déterminations, elle peut être source de ce qu'on va appeler lexis en grec, habitus en latin et en français pas de mots. Alors, c'est quand même intéressant d'essayer de voir la naissance de ce que c'est que l'habitus. Et on verra ensuite que les vertus sont des habitus, ce qu'on appelle des vertus. Mais il faut d'abord, je crois, regarder la naissance de ces habitus. Nous avons vu la nécessité. Comment, si je ne fais pas attention, il y aura ces poussées imaginatives, très puissantes, qui, petit à petit, empêcheront l'acte moral, l'acte volontaire, de se poser comme un acte moral, comme un acte volontaire, qui feront que mon amour disparaîtra, cet amour spirituel qui doit se fortifier dans une intention, disparaîtra pour devenir une velléité. Bon, on en a une expérience quotidienne pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Hein? Vous voyez bien. Les velléitaires, on en voit des quantités. Il suffit de se laisser aller pour devenir velléitaire. Il suffit de se aller et on est obligé de tout le temps se reprendre pour ne pas être velléitaire. On sait très bien que si on n'est pas très attentif, bien oui, on se laisse prendre par ce qu'on appelle des distractions. Regardez un cours de philosophie, un petit peu difficile, hein, parce que un cours de métaphysique, un peu difficile. Combien de temps, mais loyalement, hein, combien de temps on est en accueil, on est attentif, on coopère. Et combien de temps on est dans un état de distraction? C'est très difficile de compter parce que le point de départ de la distraction, on ne sait pas comment ça a commencé. C'est très subtil, l'imaginaire. Ça grandit tout d'un coup. Tiens, tiens, ah, il y a combien de temps? Puis, ben, je ne comprends plus rien du tout ce qu'on en est. Ça. Vous ne vous rappelez pas, vous avez été distrait. La distraction, c'est un phénomène imaginatif. Parce que vous n'êtes pas assez attentif. Ah, j'en suis pas responsable. Attention, vous n'êtes pas responsable d'une fois que vous avez été dans l'imagination. Mais au point de départ, si vous aviez été plus attentif, vous n'auriez pas laissé la distraction prendre possession comme ça, hein, tirer à droite ou à gauche. Si vous avez été plus attentif, on devient de plus en plus attentif. au bout de 3 ans, 2 cours de philosophie, je suis persuadé, si on a fait un effort continu, hein, on est beaucoup plus attentif, beaucoup plus capable de suivre un cours, normalement. Sauf si on est très très fatigué, alors on se met à dormir. C'est pas la même chose, dormir et les distractions. Quelqu'un qui dort, laissez-le dormir, hein, parce qu'il a besoin de dormir, tout simplement. Alors il dort au cours. Ah, mettez-vous pas dans l'attitude de celui qui veut... Il faut quand même dormir, hein. J'aurai 1 heure de sommeil, il m'a manqué 1 heure de sommeil pendant la nuit, c'est un bon moment. Alors là, vous vous laissez aller dès le point de départ, donc vous enlevez toutes les digues, le sommeil viendra tout de suite. C'est le ronron du cours qui lui fait dormir, hein. Mais dormir et les distractions, c'est pas la même chose. On peut être très éveillé avant des distractions. Et quelquefois de très belles distractions. Très belles, très amusantes, c'est sûr. Et le cours, ceci c'est pour vous montrer que si on était plus attentif, alors c'est un manque de quoi ça? Un manque d'attention. Un manque d'attention, ça provient de quoi? Un manque de prudence. La prudence nous rend attentifs. C'est la prudence qui nous rend attentifs. C'est une sollicitude d'attention, la prudence. C'est la propriété de la prudence. C'est pas directement la prudence. Mais la prudence demande d'être attentif à ce qu'on doit faire. Être prudent, c'est être attentif à ce qu'on doit faire. Vous devez, par devoir d'État, suivre un cours de philosophie, en profiter le plus possible, c'est-à-dire coopérer. Pas écouter passivement, mais coopérer. Et coopérer, c'est justement se dire, mais oui, voilà, je comprends, c'est exactement. Puis il y a telle chose, ah, j'aimerais bien que ça se précise un peu. Voyez, alors vous coopérez. Quand on coopère, on est très attentif. Alors, l'attention, ça provient de la prudence. Pour permettre à mon intelligence de se développer. Puisque un cours doit normalement développer votre intelligence, doit actuer un petit peu plus votre intelligence et lui permettre d'avancer un peu, progressivement, le point de vue éthique, le point de vue métaphysique, le point de vue de la connaissance pratique et le point de vue de la connaissance spéculative. Et toujours pour mieux connaître l'homme. C'est toujours cette connaissance plus profonde de l'homme que nous recherchons. Et alors, cette attention libère mon intelligence. Si je ne suis pas attentif, l'imaginaire l'emporte. Vous voyez là un exemple très très net, très très simple. Nous en faisons tous expérience. Et le professeur aussi fait l'expérience. C'est qu'il sait qu'il faut progressivement, ça fait partie de l'éducation intellectuelle, il faut que progressivement on arrive à faire que des étudiants puissent profiter d'un cours. Donc on doit les porter. Alors, il y en a quelques-uns qui portent le professeur, heureusement, qui sont comme des pigeons voyageurs qui vont devant et qui vont devant, alors qu'ils portent le professeur. Mais normalement, le professeur porte les autres. Et quand c'est trop lourd, on se dit, hein, quand on est trop fatigué, c'est trop lourd. Alors faites un petit effort. Je ne dis pas ça comme vous ne faites pas une forme, hein, mais je parle au point de vue proprement philosophique pour voir comment l'imaginaire vient empêcher le contrôle de la prudence. Bon, c'est facile à comprendre les poussées de l'imagination. Vous êtes en face de chocolat que vous aimez beaucoup. Puis il y a eu le carême, c'est déjà un peu passé devant. Alors, maintenant, c'est j'ai pris la résolution d'en prendre de chocolat pendant le carême. Puis le carême est terminé. Alors maintenant, ça y est. Puis ils sont tellement bons ces chocolats. Alors vous en prenez un tout petit peu de trop. C'est l'imaginaire qui vous a poussé, qui vous a désarmé. présenté un chocolat. Et puis celui-là, ah, j'ai jamais vu celui-là, il était excellent. Extraordinaire. Bien là à côté, il y a toujours un petit diable qui est là. Mais oui, regarde, ceci, bon, très bien. Alors, on se met à en prendre un plus, qui a un peu mal au foie. Après, on est, c'est beaucoup plus difficile après. Ouais. On a manqué de prudence. On a laissé aller trop l'appétit sensible. Ces petits manques, c'est des petites choses. Pour les hommes vertueux, c'est des petites choses. Il s'agirait d'une chose forte. Ah, je suis là. Sais-tu, mais des petites glissades comme ça. Manque d'attention. Manque de générosité. Au point de vue prudentiel. C'est très facile de voir que dès qu'on est plus attentif, immédiatement l'imagination. Il ne faut pas non plus être trop tendu. Parce qu'être trop tendu, ça empêche d'être intelligent. Si vous êtes trop tendu à un coup, oh, je vais à tout prix comprendre. Bon moyen pour rien comprendre. Ça, c'est bien évident. Je vais à tout prix. Vous voyez l'attitude stoïcienne. Alors à ce moment-là, non. C'est très curieux, ça. Il y a une espèce de tension qui laisse la liberté à l'intelligence. Pour que l'intelligence puisse pénétrer davantage. Donc, il y a deux extrêmes. Comment se fait-il que, c'est ça que je voudrais voir avec vous, comment se fait-il que naturellement, quand je dis naturellement, c'est-à-dire ce que nous sommes des êtres capables de poser des actes de prudence. Des actes de prudence pour acquérir la vertu de prudence. Donc nous sommes capables de poser des actes raisonnables. Disons pas prudent, pour ne pas faire de pétition de principe. Nous sommes capables de poser des actes raisonnables, des actes qui sont bons. Nous sommes capables, en face du chocolat qui est très appétissant, oui, j'en ai pris assez, merci beaucoup. Bien que le quatrième, je n'ai pas encore vu celui-là, on a un petit peu attention. Non, non, c'est suffisant, je sais que j'ai facilement mal au foie, il faut faire un petit peu attention. Je prends le chocolat, d'autres, c'est le vin. Sur le quai de la gare, hein, de Paris, c'était donc lundi soir pour partir sur Fribourg. On aime bien passer une nuit tranquille. Je vois un pauvre type qui était là, juste bien international, était là, il demande son billet. C'était visible qu'il était très peu présent. C'est-à-dire une grande dose d'absence. Grande dose d'absence. Il demande un billet de première pour Sion. Je croyais qu'il était valaisan, qu'il était, il était bien le vin. Non, c'est, j'ai appris qu'il n'était pas valaisan dans le premier. Mais le soir. Alors, il me voit, et comme j'étais un petit peu attentif à lui, et que il ne tenait plus vraiment très bien. Il met un billet de 500 francs, il y a de la monnaie. Il me regarde, remettez la monnaie dans mon portefeuille, j'arriverai pas. Il a mis son portefeuille rempli de billets, c'était bien. Heureusement qu'il est tombé sur moi. Et il a compris le reste. Il m'a dit alors, oh, venez, faites le voyage avec moi. Puis comme je demande un billet de seconde, il dit, je paie le supplément. Évidemment, il était de très bonnes intentions, merveilleuses. Mais il s'était laissé un peu trop loin. Puis dans le train, il m'a dit, ah, Paris est dur. Alors j'avais dit, il avait noyé ça. La dureté de Paris dans le monde. C'était très, très typique, c'est merveilleux. J'ai voyagé évidemment avec lui. Mais il m'a payé, il l'a payé le supplément, parce qu'il le disait. Je ne vais pas quand même pour lui faire ça, mais j'ai été avec lui parce que je voyais très bien. Il était comme un gosse qu'il fallait mener par le bout du nez. Alors quand je lui dis, maintenant, il faut dormir, hein, et cuver ton vin. Il m'a dit, oui, je crois. Combien d'heures de chemin de fer? J'ai dit, 6 heures de chemin de fer, suffisant pour cuver ton vin. Oui, je crois. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé un peu trop tôt, à mon avis, parce que j'avais envie de dormir encore, et vous réveiller. Et il fallait évidemment qu'on... Il n'y avait plus de vin incluvé, donc il voulait rester là dans la conversation. Mais comment se fait-il qu'on est capable, par nous-mêmes, d'arriver à acquérir des plis qui progressivement nous fortifient et nous empêchent de laisser les raz-de-marée? Les raz-de-marée peuvent vous dire un tas de choses, vous voyez. Il avait sûrement eu une mauvaise journée à Paris, bah, il a dû, vous voyez tout ça, une bouteille de trop. Ça, c'est sûr. Alors, une compensation, comme disent les psychologues, une compensation. Parce que c'est vrai, quand c'est triste, dit la délectation, la jouissance d'un bon vin, c'est très bien, donc on se laisse prendre. Puis un, puis après deux, puis trois, puis après, quand il s'agit de se relever, ça va plus très bien. Alors, comment l'intelligence, parce que c'est l'intelligence qui est source de toutes les vertus. Extraordinaire, ça. C'est l'intelligence liée à la volonté. C'est l'intelligence liée à la volonté. Parce que toutes les vertus naissent d'où ? Elles naissent qu'un acte bon est un acte qui est selon la droite raison. Et c'est là où on va préciser. Hein. Jusqu'ici, on a décrit, on a analysé le point de vue d'un mot. Mais ici, il s'agit de voir comment, de fait, va naître en nous des habitus. Nous constatons que nos actes doivent être conformes à la droite raison. Ça, c'est Aristote qui a inventé ça. La droite raison. Orthos logos. C'est dit en grec, ça prend beaucoup de force. L'orthos logos, vous voyez, l'orthodoxie. Hein? Ici, c'est l'orthos doxon. L'orthos logos. Le logos, la raison qui doit être droite. La droite raison. Un acte bon, un acte humain, est un acte qui est conforme à mon intelligence pratique. Qui veut ordonner des moyens à une fin. Et l'orthos logos, donc cette droite raison, va diriger les activités. Je prends un exemple très simple. Hein. Ce type qui était dans la tristesse, s'il avait eu une droite raison suffisamment forte, au bout de je ne sais pas combien de verres de vin, ça dépend de sa résistance, il aurait dit « Non, je veux rester lucide. » Et je vois que ça commence. Ça glisse. Alors à ce moment-là, vous voyez, il y a une possibilité de se rectifier. L'orthosogos montre le si mauvais rêve. C'est ça qui est important à voir. C'est que l'intelligence humaine, elle se meut dans l'ordre pratique. Elle se meut. Ah, il y a la volonté aussi. Il y a les deux. Parce que l'intellect pratique ne peut pas se comprendre sans la volonté. Donc sans un amour actuel vis-à-vis de ma fin, vis-à-vis du bien. Et cette orthos logos, cette droite raison va naître à l'intérieur de l'amour pour permettre que je suis capable de m'arrêter quand il faut m'arrêter. Je suis capable d'aller plus loin s'il faut aller plus loin. Je me meux moi-même. Ça, c'est vital de comprendre ça. Hein. Je me meux moi-même. Je me meux moi-même en vue de ma fin. Je suis capable de me voir. Je suis capable de réfléchir jusqu'à un certain moment. Mais à un moment donné, je ne réfléchis plus. Hein. Alors, c'est l'invasion imaginative et les passions. Ça y est. Tu vois ? Le moment où il laisse aller, il se laisse prendre, de réfléchir sur justement ce qu'il faut exactement faire. Tout ça, c'est normal. Naturellement, il y a l'intelligence pratique. Alors, sauf si vous êtes en face de quelqu'un qui est débile. Alors, l'intelligence pratique ne se développe pas, c'est l'appétit qui se développe uniquement. Et souvent, un appétit uniquement sensible, parce que c'est l'intelligence qui maintient l'appétit au niveau spirituel. Un débile naturel, qui est débile en fonction même de sa naissance, c'est-à-dire qui a des empêchements de développement de son intelligence, alors c'est l'appétit sensible qui se développe, et il y a très peu de volontaires. Parce que pour qu'il y ait du volontaire, il faut quand même l'intelligence pratique. Il faut que l'intelligence puisse se développer, tant qu'il n'y a pas de volontaire. Alors vous restez comme un enfant. Et vous dites ça, vous restez comme un enfant. C'est très touchant, mais c'est infra-humain, c'est pas humain. Si l'intelligence se développe normalement, il arrive à un moment où on dit qu'on a l'âge de raison. Hein, l'âge de raison. La droite raison. C'est ça l'âge de raison. C'est au moment où on est capable de réfléchir et de dire cet acte est bon et mauvais. Ce sucre qu'on me présente hein, au gosse, c'est ça, ce sucre, il m'attire. Mais je sais en même temps qu'on m'a défendu de manger en dehors des repas. L'autre jour, je voyais ça, une petite fille, c'était très très jeune, c'était à Lyon, petite fille. Très très gentille, du reste, merveilleuse. Mais elle avait un appétit extraordinaire, mais elle avait mis du sucre. C'était visible. Et astucieuse. Elle savait très bien que c'était défendu. Mais il y avait son père qui était là. Alors quand le père parlait à quelqu'un d'autre, la petite main, avant, il y avait un petit jeu extraordinaire. Et elle savait très bien ce qu'elle faisait. De dire qu'il n'y avait pas l'œuf de raison. Un petit singe n'aurait pas fait ça. Il a répondu dessus tout de suite. Donc là, il y avait deux attitudes. C'était très net. Un œil du côté du papa, la conscience, hein, et puis l'autre œil vis-à-vis du morceau de sucre. Et ça a duré comme ça un certain temps. Je me disais, c'était amusant. Un spectacle ravissant dans ça. Jusqu'au moment où elle a raté son coup. Parce qu'elle a cru que le père ne voyait pas, etc. Elle a repris, et le père a mis sa main. Quand elle avait la main dans le sucre. Alors ça, l'impériaux du père. Alors à ce moment-là, elle a regardé son père. Mais absolument, c'est extraordinaire, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la droite raison qui pousse à travers l'affectivité sensible qui porte sur le bien sensible. Cette affectivité qui porte sur le bien sensible, qui fait qu'on est tout entier pris par ça, puis il y a quand même la droite raison. La raison est trop faible, l'appétit sensible est trop grand. Et cette lutte, on a tous eu ça, on a tous connu ces choses-là, c'est évident. Et ça continue quelquefois, même à notre âge. Hein. Où il a l'œil hein, de l'autorité, et puis l'appétit sensible, et puis des grands goûts d'autorité. Oh, putain, c'est tombé juste dedans. L'autorité arrive toujours au bon moment, quand on a la main dans le sucre. N'est-ce pas ? Alors, c'est à ce moment-là que, de fait, on voit ce que c'est que la droite. La conscience. Aristote n'en parle pas beaucoup de la conscience, mais nous devons en parler, peut-être beaucoup plus. La conscience que nous avons de la droite raison, de ce qu'il faut faire, sous la mouvance de l'amour, qui fait comprendre que nous devons lutter contre cet appétit sensible. On doit être vigilant, voyez, on doit être vigilant. Et être vigilant, c'est quoi? C'est justement être conscient. Oui, ça c'est défendu. On peut... C'est pourtant bien attirant. Non, c'est défendu. Alors, on lutte contre l'appétit sensible, et puis il y a de temps en temps la victoire. Quand il y a la victoire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc un acte raisonnable qui est arrivé à dépasser l'appétit sensible. Le concupiscible ou l'irascible. Évidemment, c'est d'abord le concupiscible, en premier lieu. Quand en premier lieu, on regarde plutôt le concupiscible. Ordinairement, le concupiscible s'éveille avant l'irascible. Quoique l'irascible s'éveille très vite, vous savez bien. Hein, parce que ça s'éveille très vite. Dès qu'on n'a pas le bien sensible immédiat, eh bien, il y a immédiatement la réaction de l'irascible. Mais ordinairement, quand même, la droite raison va d'abord, en premier lieu, en premier lieu, va s'emparer du concupiscible. Alors, la droite raison, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, cette droite raison. C'est difficile à préciser ça, parce que c'est l'intelligence finalisée par l'amour, par la volonté. L'intelligence qui veut atteindre cette fin à travers des moyens. C'est évident que c'est à partir d'une réflexion que la droite raison peut s'appliquer pour essayer de comprendre exactement les moyens, c'est-à-dire ce qui lui est donné immédiatement, parce que les moyens, c'est toujours ce qui lui est donné immédiatement, qui doivent s'ordonner à une fin. Cet enfant, le gosse, il sait qu'il y a l'obéissance. L'obéissance au père. Autrement, une claque. Donc l'obéissance au père. Il faut l'obéissance au père. Il faut obéir. C'est pas très bien encore. Pourquoi? Oui, sans doute pour aimer. Peut-être, s'il est bien élevé, on lui dira ça. Il faut obéir pour aimer, faire plaisir à papa. Donc on fait ça. Alors c'est l'obéissance pour aimer, faire plaisir à quelqu'un, faire plaisir à une personne. En fait, c'est parlant. Et alors, il y a ce moyen qui est en conformité ou pas en conformité. Ça, c'est la droite raison. La droite raison me montre si ce moyen est en conformité avec l'obéissance, puisque c'est l'obéissance qui domine, avec cet amour. Et la droite raison va naître de cette manière-là. Et alors, à partir de là, il y a des actes droits, des actes bons, des actes honnêtes que je pose. Et c'est une victoire de la raison droite à l'égard du concupiscible. Et c'est dans cette manière-là que petit à petit, à l'intérieur du concupiscible, va s'établir certaines orientations, certains plis. Ce sont des plis. Alors certains diront, c'est un dressage. Ça visait ce que Monod avait dit. Monod a dit à Genève, l'éducation d'un enfant, c'est acquérir des habitudes. Hein. L'éducation d'un enfant, c'est comme un dressage d'un petit chat. Un petit chat, il faut qu'il soit propre. Un enfant, il faut qu'il soit propre. C'est la même chose, c'est le dressage. Vous voyez toute la différence. Hein. Le dressage se fait de l'extérieur. On ne va pas faire que le chat acquiert des habitus, qu'il acquiert des vertus. Il en est incapable. Mais ce qu'il est capable, c'est d'avoir des liens en face de telle ou telle attitude, des réflexes qui sont combinés les uns avec les autres. C'est pas du tout l'éducation, ça. Le dressage, c'est tout simplement mettre des liens entre telle ou telle attitude. Si le chien fait ça, on lui tape sur le museau. S'il prend trop vite un sucre. Si le chat fait ça, on lui tapera sur le museau. Et alors le chat fera attention. Il comprendra qu'il ne faut pas faire ça. Oui, c'est exactement comme la vache avec le fil électrique. Alors, on s'écarte. Créer des réflexes conditionnés. Conditionner, c'est-à-dire une telle attitude engendre quelque chose d'agréable. Telle attitude, au contraire, va être source de quelque chose de désagréable. Alors à ce moment-là, on fait un tissu conditionné en vue de telle ou telle chose. C'est pas ça du tout. L'éducation. L'éducation, c'est essayer d'augmenter la conscience de la droite raison vis-à-vis de la fin qu'on poursuit. Et ceci jusque dans l'appétit sensible, jusque dans le concupiscible et jusque dans l'irascible. Et donc, vous voyez bien que tout dépend de la droite raison. C'est la droite raison qui est source de l'acquisition de ses plis, qui est source de l'acquisition de ses habitudes. C'est la droite raison sous la mouvance de l'amour, c'est bien évident. La droite raison présuppose l'amour et demeure toujours sous la mouvance de l'amour. Donc c'est toujours le lien entre intelligence et volonté. Mais c'est l'intelligence et la volonté qui sont source d'un acte bon, moralement bon, d'un acte qui est conforme à la fin que je poursuis. Et cet acte étant bon, chaque fois qu'il est posé, il y a une victoire par rapport à l'imaginaire. Il y a une victoire par rapport à un appétit sensible qui risquerait de se développer uniquement pour lui-même. Et donc il y a une victoire à ce moment-là, qui est l'acquisition de quelque chose. Il y a une certaine détermination implique, une certaine orientation. C'est l'acquisition de ce qu'on appelle donc plexis. Habitus. Français, vous êtes obligé de traduire habitus. Parce que ce n'est pas l'habitude. Hein. Vous voyez, l'habitude serait entre le complexe conditionné et puis le véritable habitus, la véritable vertu. C'est-à-dire quand on traduit habitude, c'est très mauvais. Parce que l'habitude, ça peut être en complexe conditionné. J'ai l'habitude de faire ça, c'est pas du tout selon ma droite raison, c'est simplement l'habitude. C'est plus simple. C'est plus simple de prendre ça. C'est plus simple de m'orienter comme ça. Mais ce n'est pas du tout vertueux, ce n'est pas du tout humain. C'est tout simplement un conditionnement qui est impliqué dans ma manière de faire. J'ai vu que c'était plus simple de prendre telle route, telle direction, j'apprends. Ce n'est pas du tout la droite raison. Vous voyez ? C'est beaucoup plus d'ordre artistique. C'est d'ordre de l'efficacité, c'est plus rapide. Ce n'est pas le motif d'amour. Tandis que là, c'est au contraire un motif d'amour. Donc, il faut maintenir le mot habitus. Et puis c'est tout. Attendez de donner une traduction qui soit élégante. Et dites exis habitus. Alors, essayons de comprendre comment le premier habitus qu'on va acquérir, le premier habitus, c'est dans la droite raison, c'est-à-dire dans l'intelligence pratique. Le premier et dernier, c'est l'apparition de ce qu'on va appeler l'imprudence. Et je crois qu'il faut commencer, quand il s'agit de regarder ce que c'est que les exis, regarder ce que c'est que l'habitus, de toujours commencer par le point de vue de l'intelligence pratique. C'est dans l'intelligence pratique et dans l'intelligence spéculative que les habitus sont le mieux. C'est très curieux. C'est là où on les comprend le mieux. C'est là où ils sont le plus conscients. C'est là aussi où ils sont le plus nombreux. Dans l'intelligence pratique, on peut acquérir l'exis vertu et on peut acquérir l'exis art. Alors je ne regarde pas l'art, nous le verrons avec le cours de la philosophie de l'art, comment on peut acquérir l'art. C'est toujours intéressant quand on regarde le point de vue de l'apparition de l'exis de la vertu, de faire allusion à l'art. Parce que facilement on confond les deux. Parce que tous les deux sont reçus dans l'intellect pratique. Alors, comprenons que l'intelligence pratique qui me donne la conscience de ce que je dois faire, la conscience que je dois écouter, que je dois être vigilant, que je dois être attentif, la conscience que je peux prendre, étant donné que le carême est terminé, ce chocolat, puisqu'on me l'offre. Donc je peux le prendre, oui, c'est pas mauvais. Je peux prendre ce verre de vin, c'est bon, ça me fortifiera. Et puis c'est en même temps agréable. Donc, alors je peux le faire. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on est prudent à ce moment-là. Ça veut dire tout simplement qu'on est conscient de ce qu'on fait. Je suis conscient de poser cet acte et de devoir le poser. Et quand, de fait, cet acte se répète, il y a acquisition d'un certain pli, d'un certain habitus. Et cette habitus sera la prudence. Et le premier habitus qui naît, c'est l'intellect, dans l'intellect pratique, l'habitude de prudence. Alors, avant de voir ce que c'est que la prudence, et puis de voir les autres habitudes, réfléchissons un instant sur l'apparition. C'est une chose belle, du reste. L'apparition de l'exis, la naissance de l'exis. Et je prends exprès du côté de l'intelligence, parce que c'est là où on le voit mieux. L'habitus, c'est une détermination à l'intérieur d'une opération. C'est une détermination qui naît, une détermination de la dynamis, donc du nous pratique. Le nous pratique implique une indétermination. L'intelligence implique une indétermination radicale. Une indétermination radicale parce que l'intelligence peut s'orienter de telle ou telle façon. Si l'intelligence peut s'orienter de telle ou telle façon, l'intelligence donc impliquant cette indétermination fait que je suis vulnérable à toute espèce de distraction. Quand on est en puissance, quand on est indéterminé, on est vulnérable à une quantité d'influence secondaire. Je me laisse prendre par quelque chose qui n'est pas du tout mon orientation, qui est tout à fait autre chose. C'est pour ça que j'ai besoin, à cause de cette indétermination, j'ai besoin de me déterminer. Donc le besoin de détermination. L'habitus ne va naître que dans une puissance, dans une faculté où il y a l'indétermination. Et c'est quelque chose qui vient s'ajouter à partir de l'opération. Le rôle propre de l'exis, c'est de déterminer. C'est de déterminer la faculté dans l'orientation de sa propre finalité. Donc, on oriente la faculté dans le sens même de sa finalité. Donc, c'est une détermination qui vient s'ajouter, mais qui ne s'ajoute pas de l'extérieur. Elle s'ajoute à partir même de mon activité. Il faut bien distinguer la méthode de l'habitus. C'est très important à faire ça. Une méthode, ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas un habitus. Ça vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui vous donne de l'extérieur. Quand on vous donne une méthode pour bien travailler, quand on vous donne une méthode pour allumer n'importe quelle chose, on vous dit, voilà, première chose qu'on doit faire, deuxième chose qu'on doit faire. Un règlement, une méthode, faites ceci, très bien. C'est une chose extérieure. Tandis que l'habitus et l'exis naît de l'intérieur. Il naît de l'intérieur à partir de l'exercice même de ma faculté. Ma faculté s'oriente de telle manière que, du fait même qu'elle s'oriente, elle se détermine. Elle se détermine elle-même. Du fait même qu'elle pose un acte, elle s'actualise. Et ce résultat de cet exercice, de cette actualisation, va être une détermination. C'est la conséquence même de son actuation, puisque je suis en face d'une puissance indéterminée qui, grâce à l'opération, se détermine. Et l'habitude, c'est donc cette détermination immanente à l'intérieur même de ma faculté, de ma puissance, de ma dynamique, en vue de la fin. C'est en ce sens-là qu'on pourra dire que l'habitude, c'est comme une seconde nature. Et comprenez bien ce que ça veut dire quand on dit que l'habitus c'est une seconde nature. Ça veut dire que l'habitus d'intelligence, ça vient déterminer l'intelligence dans le sens de son appétit naturel. L'intelligence est faite pour atteindre la vérité. Eh bien l'habitus sera quelque chose qui viendra déterminer l'intelligence dans le sens de la recherche de la vérité. Ici il s'agit de l'intelligence pratique, donc de découvrir la raison droite qui me permet d'agir honnêtement, qui me permet d'agir humainement. qui me permet d'agir raisonnablement. C'est donc dans le sens même de l'intellect pratique ordonné à la fin que va naître cette détermination. Cette détermination, pour le départ, est très faible, hein, mais c'est quand même une certaine disposition, et puis progressivement, l'habitus grandit en fonction de la répétition des actes. Mais répétition des actes, comprenons bien, il ne s'agit pas de répéter toujours le même acte, vous n'acquériez pas l'habitus de prudence. Si vous ne saviez faire qu'un seul acte dans votre vie, en disant il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. Non, vous n'acquériez rien du tout. Parce qu'il faut justement qu'il faut maintenir toute la souplesse de l'intelligence qui fait que dans des cas différents, on n'agit pas de la même façon. Mais c'est toujours la détermination de l'intelligence en vue de sa fin, en vue d'agir d'une façon raisonnable. Et alors, il y a cette détermination qui se fait à l'intérieur de l'intelligence pour ordonner toutes les virtualités de l'intelligence. C'est toutes les virtualités de l'intelligence, toutes les capacités de l'intelligence qui vont s'ordonner dans le sens même d'une intelligence en vue de sa fin, en vue de son bien, en vue de permettre que l'amour se développe. C'est donc une qualité qui permet une intériorité plus grande. C'est-à-dire qu'elle naît à l'intérieur de l'intelligence en premier lieu. Parce que l'intelligence a justement cette intériorité. Alors il y aura des habitus du côté de l'intellect pratique et du côté de l'intellect spéculatif. Les habitus du côté de l'intellect spéculatif, c'est tout simplement la science. L'habitus de philosophie, ça pousse. Première fois que vous faites un acte d'induction plan philosophique, vous avez une peine énorme. Si vous avez l'habitus, vous arrivez à le faire beaucoup plus facilement. L'habitus va, vous voyez, mettre à l'intérieur de ma puissance, de ma faculté, une détermination, un ordre. Quelque chose que je ne peux pas enlever. Et ça naît de l'intérieur, ça organise mon intelligence en vue de son bien. Alors, une fois qu'on a saisi un peu la naissance de cet habitus, on peut comprendre que cet habitus va venir perfectionner mon âme spirituelle, mon intelligence pratique, avec des radis, des attaches multiples et diverses. Il s'agit de comprendre maintenant ce qu'est la prudence.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.